d'Iran. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau journal en ce mercredi 24 avril 2024. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. La Russie a su briser le mythe de la supériorité des armes occidentales, se félicite le ministre russe de la Défense. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, la nation iranienne a transformé les sanctions en opportunités, se félicite le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Transgénéraux et officiers de haut rang israéliens sont détenus par le Hamas. Et puis une délégation économique nord-coréenne en visite en Iran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que les progrès de la République islamique en matière de production d'armes témoignent de cette réalité qu'une nation vivante peut transformer les sanctions en opportunités. L'Ayatollah Khamenei a accordé ce mercredi une audience à un groupe de travailleurs venant des quatre coins de l'Iran à Téhéran à l'occasion de la Semaine du Travail. La semaine du travail en Iran a débuté aujourd'hui, mercredi 24 avril. Le leader de la révolution iranienne a déclaré que les sanctions imposées au pays visaient principalement à mettre la République islamique d'Iran en difficulté et à l'obliger à suivre des lignes coloniales et arrogantes. La nation iranienne, avec son zèle et sa longue tradition islamique, a pourtant rendu de telles tentatives vaines et ne s'est pas soumise à une telle coercition. Il a salué ensuite le progrès de l'Iran pour vaincre les stratagèmes de sanctions de l'ennemi, affirmant qu'une nation vivante se crée une opportunité pour contrer l'hostilité de l'ennemi. Les pressions ont aidé les Iraniens à réaliser de grands progrès, notamment dans le secteur de l'armement. Les sanctions ne parviendront pas à mettre la nation iranienne à genoux, car elle n'a pas placé ses espoirs dans une aide étrangère. Cet esprit doit disparaître, a-t-il soutenu. La nation iranienne doit montrer sa force par le travail, l'action et l'unité nationale, a-t-il réaffirmé. Le président iranien Ibrahim Raisi a lancé un sévère avertissement contre toute agression israélienne sur le sol iranien, affirmant que le régime occupant serait confronté à une réponse dévastatrice en cas de nouvelle erreur. Le président Raisi a tiré la sonnette d'alarme lors d'une réunion mardi avec l'élite culturelle et universitaire du Pakistan à l'université gouvernementale de Lahore dans la province centrale du Pendjab. À cette occasion, il a évoqué les frappes de représailles iraniennes contre Israël le 13 avril en réponse à l'agression du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran en Syrie, soulignant que l'Iran avait puni Israël pour son attaque contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas en violation de toutes les lois et conventions internationales, ainsi que la Charte des Nations Unies. Le président Raïssi a martelé « Si le régime sioniste commet une autre erreur en lançant une autre agression contre le sol iranien, la situation sera différente. Cette fois, il ne sait pas exactement ce qui restera d'Israël après une telle erreur. » Soulignant le soutien indéfectible de Washington à la guerre menée par Israël depuis des mois dans la bande de Gaza assiégée, le président iranien a déclaré « Le soutien américain et occidental au régime sioniste qui a tué et blessé plus de 100 000 Palestiniens à Gaza prouve aujourd'hui que les plus grands violateurs des droits de l'homme ne sont que les États-Unis et les Occidentaux et que leurs allégations de défendre les droits de l'homme sont fallacieuses. » En allusion à la vaste opération de représailles du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, dans la nuit de 13 à 14 avril, le porte-parole des brigades Qassam du Hamas a affirmé que la riposte ferme de l'Iran a déjoué les calculs de l'ennemi et a donné lieu à de nouvelles équations. Abu Obaida, porte-parole des brigades Ezzedine al-Qassam du mouvement Hamas, a affirmé comme suite « Nous appelons l'Oumma islamique tout entière à intensifier ses actions en appui à la résistance. La résistance restera loyale envers les dévouements du peuple. Nous sommes porteurs des douleurs, mais aussi des espoirs de la nation », a-t-il dit. Rappelant que la résistance continue de combattre les sionistes dans la bande de Gaza assiégée, Abu Obaida a affirmé « 200 jours se sont écoulés et l'armée occupante sioniste est toujours embourbée à Gaza » et en proie à une véritable crise, poursuit les destructions et le massacre des Palestiniens. Il a rappelé qu'il n'y a aucun horizon prometteur pour l'ennemi à Gaza. L'ennemi n'a pas réussi à rendre possible la libération de ses captifs, a-t-il ajouté. Les forces occupantes cherchent à persuader le monde entier du fait qu'elles ont détruit tous les groupes de la résistance, mais ce n'est qu'une grande imposture, a ajouté le porte-parole des brigades Qassam. Il a également tenu à saluer et présenter ses remerciements pour tous les efforts populaires ou militaires en appui à l'opération Tempête d'Al-Aqsa, surtout sur le front libanais, au Yémen et en Irak. Le Hamas détient à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens. Un haut responsable du mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré que le groupe détenait à lui seul 30 généraux et officiers de haut rang israéliens. La source qui a souhaité garder l'anonymat indiquait dans une interview accordée à Al Arabi Al Jadid qu'il n'est bien sûr pas possible de déterminer avec précision le nombre de prisonniers vivants, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est supérieur aux chiffres annoncés par les médias hébreux. Le mouvement détient à lui seul environ 30 généraux et officiers du Shin Bet qui ont été capturés le 7 octobre. Ces prisonniers sont détenus dans des endroits hautement sécurisés et hors de portée des forces d'occupation et leur accès est impossible en toutes circonstances, a noté ce responsable du Hamas avant de préciser que Benjamin Netanyahou et ses ministres cachent de nombreuses informations sur l'identité de certains prisonniers pour éviter de provoquer la colère des militaires. La reprise des opérations du régime sioniste dans le nord et le centre de la bande de Gaza, après avoir déclaré ses zones nettoyées et sûres, est un signe de son échec, a-t-il indiqué. Selon ce dernier, la résistance se porte toujours bien et contrôle toujours de manière disciplinée les structures intégrées dans le domaine des opérations. La source a déclaré que le leader du mouvement Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, n'est pas isolé de la réalité là-bas, malgré la guerre en cours et les opérations des renseignements israéliens qui ne s'arrêtent pas. L'affirmation selon laquelle Sinwar s'est isolé dans les tunnels n'est rien d'autre qu'une allégation de Netanyahou et de ses agents pour dissimuler son échec dans la guerre. Sinwar exerce son travail, le leader du mouvement sur le terrain, a-t-il dit. Israël a lancé une guerre brutale contre la bande de Gaza soutenue par les États-Unis le 7 octobre 2023 à la suite de l'opération Tempête d'Al-Aqsa du Hamas contre les territoires occupés. Depuis, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter tous les jours. Au moins 34 183 personnes ont été tuées. Les femmes et les enfants représentent environ 72% des victimes de la guerre. Environ 77 143 autres Palestiniens ont été blessés. Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit de lundi à mardi devant des locaux de l'Université de New York après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes, dernier épisode de la tourmente provoquée par le conflit à Gaza sur des campus américains. Les 133 personnes ont été relâchées, a affirmé un porte-parole de la police new-yorkaise. Parmi elles figurent des étudiants et des enseignants, selon des témoignages sur les réseaux sociaux. Mais le vif débat et la colère sont loin de retomber. L'administration de mon université, mes élus au Congrès et même le président se comportent comme s'ils étaient des porte-paroles de la communauté juive, assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Ils nous réduisent au silence, nous suspendent, a dénoncé devant la presse Sarah Borus, une étudiante juive pro-palestinienne du Bernard College de l'Université de Columbia. La semaine dernière, une centaine d'étudiants de Columbia réclamant la fin de la guerre qui ravage Gaza et que leur établissement boycotte toute activité en lien avec Israël ont été interpellés. À Yale, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées dans des circonstances similaires. Visite d'une délégation économique nord-coréenne en Iran. La Corée du Nord a envoyé une délégation économique en Iran, ont rapporté ce mercredi 24 avril les médias officiels de Pyongyang, un voyage inédit qui annonce le renforcement de la coopération entre les deux pays. La délégation dirigée par le ministre des Relations économiques extérieures a quitté Pyongyang la veille pour se rendre en Iran, a indiqué l'agence centrale de presse coréenne dans une brève annonce d'une phrase sans donner davantage de détails. Il est rare qu'un haut responsable nord-coréen se rende en Iran. En 2019, Park Chol-min, alors vice-président nord-coréen de l'Assemblée populaire suprême, s'est rendu en Iran pour discuter de coopération. La délégation parlementaire nord-coréenne, conduite par Park Chol-min, vice-président de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et chef du groupe d'amitié parlementaire Iran-Corée du Nord, a rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères de l'époque, Seyed Abbas Arorchi, en août 2019 à Téhéran. Lors de la réunion, ils ont discuté du renforcement de la coopération entre Téhéran et Pyongyang sur les questions parlementaires, politiques, économiques et internationales. Le responsable nord-coréen a décrit la visite de sa délégation à Téhéran comme une opportunité idéale pour le développement des relations et a salué le succès du gouvernement et de la nation iranien dans la gestion des sanctions américaines. En 2018, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord s'est déplacé à Téhéran à la tête d'une haute délégation. Ayant établi des relations diplomatiques en 1973, Pyongyang et Téhéran sont connus pour entretenir des liens étroits alors qu'ils sont sous le coup de sanctions internationales pour leur programme nucléaire civil. Parallèlement à la coopération économique, la Corée du Nord cherche également à approfondir ses liens militaires avec l'Iran. Les experts ont déclaré que le Nord pourrait demander l'aide de l'Iran sur la technologie des missiles à combustible solide, comme un missile balistique équipé d'une ogive hypersonique. Ce développement intervient alors que la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a fustigé ce mercredi les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, rappelant que le Nord s'est engagé à renforcer sa puissance militaire contre les forces hostiles. Kim Yo-jong a également accusé les États-Unis et la Corée du Sud de plonger la région dans une tourmente dangereuse. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Nous avons brisé le mythe de la supériorité des armes occidentales, a déclaré le ministre russe de la Défense. Sergueï Choïgo a déclaré mardi que le mythe de la supériorité des armes occidentales avait disparu lors du conflit en Ukraine. La Russie va intensifier ses attaques contre les centres logistiques et les installations de stockage d'armes occidentales en Ukraine, a ajouté le ministre russe de la Défense. S'exprimant lors de la réunion du collège du ministère de la Défense, Sergueï Choïgou a assuré que les forces armées russes avaient l'initiative sur toute la ligne de contact. Au total, les pertes, les tués et les blessés des forces armées ukrainiennes s'élèvent à près d'un demi-million de personnes depuis le début de l'opération militaire spéciale, a-t-il indiqué. Selon Choïgou, le régime de Kiev n'a pas réussi à atteindre ses objectifs lors des contre-attaques perpétrées par les formateurs de l'OTAN. En référence à l'approbation du nouveau plan d'aide américain à l'Ukraine, le ministre russe a estimé que le plan d'aide de 61 milliards de dollars que les États-Unis ont alloué à l'Ukraine pour empêcher l'effondrement de ses forces armées financerait plutôt le complexe militaro-industriel américain. Notant l'intensification des activités de l'OTAN dans l'Arctique et aux frontières ouest et nord-ouest de la Russie, M. Choïgou a affirmé que la Russie prendrait des mesures de réponse adéquates. Il a ajouté que les districts militaires de Moscou et de Leningrad, récemment rétablis, avaient commencé à effectuer des tâches en ce sens depuis le 1er mars. Proportionnellement aux menaces que font peser les États-Unis et leurs alliés, la Russie continuera d'améliorer sa composition militaire et de produire davantage d'armes et d'équipements militaires parmi les plus demandés, a ponctué le ministre russe de la Défense.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Alors en effet, en février dernier, les forces israéliennes, l'armée israélienne a attaqué l'hôpital Nasser situé à Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza et tué des dizaines de personnes. Mais récemment, ce 20 avril 2024, il y a 2-3 jours de cela, les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune dans cet hôpital. Donc un crime de plus, un crime contre l'humanité. Mais toujours, toujours et toujours, le silence des instances internationales face à ces crimes perpétrés contre le peuple palestinien, non seulement depuis quelques mois, mais depuis des années. Nous allons évoquer ce nouveau crime perpétré et dévoilé avec nos deux invités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet et on revient tout de suite après.
Les équipes palestiniennes de la défense civile ont découvert une fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes 2 semaines après le retrait des forces israéliennes de la ville située dans le sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié le samedi 20 avril, l'Agence de défense civile de Gaza a déclaré que les corps de 50 Palestiniens tués par les forces d'occupation israéliennes avaient été retrouvés dans un charnier. Nos équipes poursuivent leurs opérations de fouilles et de récupération des corps de martyrs restants dans les prochains jours, car ils sont encore un nombre important, ajoute le communiqué. Les forces israéliennes ont attaqué l'hôpital Nasser et tué des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées dans le complexe médical en février après des jours de bombardements intenses. Ils ont attaqué Khan Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza, début décembre, obligeant les habitants à fuir leur maison. Le 7 avril, l'armée israélienne a annoncé avoir retiré ses forces terrestres de Khan Younes. Depuis lors, les Palestiniens déplacés rentrent chez eux après des mois d'attaques israéliennes qui ont laissé une grande partie de la ville en ruine. Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza, assiégée le 7 octobre, après que le groupe de résistance palestinien Hamas a mené une opération inédite contre l'entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien. Le régime de Tel Aviv a jusqu'à présent tué au moins 34 049 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 76 901 autres.
Voilà, nous avons vu et entendu le reportage. Plus de 34 000 Palestiniens tués. Alors, c'est quand même un crime peut-être sans précédent. Nous allons évoquer ce sujet, ces attaques contre les camps de réfugiés, les attaques contre les hôpitaux, contre les maisons, contre les civils, les femmes et les enfants. Nous avons deux invités que je suis très ravie de retrouver. Il s'agit d'Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui est avec nous depuis Damas. Également Bernard Cornu, politologue, écrivain et analyste des questions du Moyen-Orient. Je vous dis bonjour, chers invités. Merci d'être avec nous pour cette émission. Madame Midani, si vous voulez bien, on commence avec vous. En ce qui concerne cette nouvelle révélation, de ce crime perpétré contre l'hôpital de Nasser à Khan Younes, dans un premier temps, quel est votre avis général sur ce qui vient de se passer, Madame Midani?
Bonjour à vous. Et puis, je voudrais commencer par saluer quand même la lutte du peuple palestinien, saluer sa résistance héroïque et sans précédent face à des exactions aussi sans précédent, pleines de sadisme et d'horreur. Et que cela continue depuis le 7 octobre, le 8 octobre, donc depuis pratiquement 7 mois. Et le peuple palestinien et sa résistance tiennent bon. Ils continuent à s'aimer des coups douloureux aux Israéliens. C'est ça qui les a obligés à se retirer de Khan Younes, et les a obligés à se retirer du nord de Gaza. Et en fait, de plus, ils continuent, les Israéliens continuent donc pour cela aussi d'accentuer leurs crimes génocidaires, mais accentuer l'horreur de leurs crimes dans l'espoir de transformer Gaza en exemple à ne pas suivre pour l'ensemble de la population.
Oui.
Alors, bien sûr, ces horreurs, elles ont été faites dès les premiers jours. On se rappelle aussi l'hôpital Ashifa qui est devenu pratiquement comme une citadelle. Il a été entouré, encerclé par les chars, isolé du monde, et ils se sont après abattus sur l'hôpital. Ils l'ont transformé en centre d'inquisition, de répression et interrogatoire. Toute l'équipe de l'hôpital a été aussi torturée, comme les blessés, les enfants, les réfugiés, parce que ça a été fait en deux temps. Donc, c'est vraiment, ils excellent dans l'horreur, je dirais. Et là, aujourd'hui, on retrouve dans l'hôpital aussi Nasser à Khan Younes, d'où ils se sont retirés, les Israéliens se sont retirés depuis 3 jours, effectivement fuyant les coups répétés et glorieux de la résistance palestinienne. Là, on découvre les charniers, on découvre des personnes qui sont mortes, torturées, avec les mains nouées derrière le dos, avec tout un tas d'horreurs. Et puis, il faut dire, les hôpitaux sont toujours aussi le lieu de refuge des exilés. Les gens viennent non seulement chercher l'aide médicale, mais aussi par les bombardements, ils cherchent l'asile. Il faut reconnaître, il faut dire aussi que les Israéliens avaient déclaré ces zones du sud comme étant des zones de sécurité, en fait, donc où les réfugiés peuvent aller. et qu'on ne les bombardera pas, on ne les touchera pas. Et donc des zones humanitaires et sécuritaires, ils n'ont pas arrêté de les bombarder, de violer ces entités, violer l'hôpital, violer les blessés, les enfants, les exilés, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très important à signaler, et je dirais quand même le fait de trouver aujourd'hui un charnier collectif à l'intérieur de l'hôpital ne nous étonne plus, vu les crimes qu'on a vus depuis le début, et n'étonne plus les Palestiniens. Ce qui est étonnant aussi, c'est le silence assourdissant de tous ces pays qui se prétendent défenseurs des libertés humaines, défenseurs des femmes, défenseurs des enfants, défenseurs de la liberté de parole. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais signaler que dans ces pays maintenant, rien que de dire on soutient la résistance palestinienne, ça devient un crime, un délit d'apologie du terrorisme. C'est le cas en France, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne. Et c'est quelque chose d'absolument terrifiant, où la manière dont ces pays couvrent leurs crimes et couvrent les crimes israéliens, en fait, sans aucun scrupule et au vu et en défiant toutes les lois, toutes les règles internationales, à la fois des droits de l'homme et de la guerre. Car l'hôpital est en loi de guerre, et pour les pays qui se font la guerre, je ne voudrais pas appeler ça une guerre, mais normalement, les hôpitaux sont quand même respectés et doivent être un lieu sûr. Exactement. Et un lieu inattaquable. Alors que là, c'est comme les lieux de culte d'ailleurs, et c'est quelque chose d'absolument sacré qui doit être protégé et où la population va se protéger à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment, ils font fi de toutes les règles, je dirais, même des conflits dans l'humanité, et qui sont tenus, et la charte de l'ONU, etc. Et malgré le fait que la Cour internationale de justice a donné aussi un certain nombre d'injonctions dans son rapport de fin décembre, où Israël s'assoit sur tout ça, malgré aussi le vote du Conseil de sécurité, de tous les membres du Conseil de sécurité, exigeant un arrêt immédiat de l'agression, en fait, contre Gaza et le retrait immédiat, eh bien, le veto américain l'abstention américaine a fait que Israël continue dans ses crimes de plus belle et continue donc à s'aimer la terreur, je dirais, à semer la terreur dans toute la Palestine, hein, d'ailleurs plus à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Je voudrais quand même dire et rappeler aussi que Tol Karem a été envahi, que Jenin a été envahi, que Nablus a été envahi, et c'est pareil, les lieux privilégiés de leur invasion, c'est l'hôpital, c'est les habitations civiles, etc. C'est en fait quelque chose d'absolument affolant, et ce qui est plus affolant, c'est le silence et l'aveuglement des pays occidentaux et de ces et puis la sclérose, je dirais, ou l'incapacité des instances des Nations Unies à faire appliquer même la charte et la charte des Nations Unies et la loi internationale.
Merci infiniment pour vos détails, votre analyse, Madame Idani. Restez en ligne. Monsieur Cornu, vous avez entendu l'analyse et le point de vue de Madame Idani, comme l'a très bien expliqué Madame Idani. Alors, ces crimes perpétrés, mais le point, c'est les crimes et les attaques perpétrées contre un hôpital, un lieu qui est censé être sécurisé, qui est censé être sûr partout dans le monde. Les lois internationales, tout ce que vous voulez, disent qu'un hôpital est un lieu sûr et sécurisé. Comment ça se fait qu'il y a des attaques contre ce genre de lieu, mais après il y a la révélation des fosses communes, mais après il y a toujours le silence des instances internationales qui ne font que regarder ou peut-être donner, peut-être juste publier un communiqué pour condamner ce genre d'attaque. Comment pourrait-on expliquer cette situation, Monsieur Cornu?
Disons, on est sans doute au bout, à l'extrémité d'un processus colonial qui s'étend depuis longtemps en Cisjordanie. Et comme l'a dit récemment un professeur palestinien, d'ailleurs de Columbia, le professeur Joseph Massad, dans un article sur Middle East Aid, il dit que dans toutes les fins des processus coloniaux, il y a une accélération, une aggravation des massacres, parce que la puissance coloniale est affolée par la résistance populaire. Et les massacres s'aggravent. C'est une comparaison par rapport à ce qui s'est passé au Kenya, ce qui s'est passé en Algérie avec la France, au Kenya donc avec les Britanniques, en Inde aussi. Et donc, c'est un processus extrême et il est difficile même aux Israéliens de gauche, et les quelques rares qui s'occupent de protester contre les agissements du gouvernement et de l'armée israélienne dans tous ces massacres, il est difficile d'être entendu, même s'ils publient des documents, s'ils critiquent des lettres qui sont un document pour l'histoire de leur résistance à eux aussi, ils n'ont pas d'influence. Et chez nous aussi en Europe, il y a des manifestations massives en Angleterre, à Genève, en Allemagne, en France, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore d'effet pour convaincre les gouvernements qui sont sans doute trop loin de ces populations de Gaza, palestiniennes, qu'ils connaissent mal, n'ont pas d'empathie, de vraie empathie pour ça. Je voudrais signaler une fois une chose que j'ai découverte récemment, c'est que le plus proche conseiller du président Macron, sa mère était une Sabra, c'est-à-dire une juive née à Haïfa en 1932, de parents aussi présents comme juifs de la Palestine historique. Et en fait, donc, le narratif, ce qu'a raconté, ce qu'a entendu le Macron dans ses années, quand il avait 30 ans, quand il était début de ses années 40 ans, et même pendant son premier mandat et son deuxième mandat, c'est surtout une histoire vue par les juifs de colonisateurs des années 30, qui eux considéraient qu'ils luttaient contre l'impérialisme britannique. Des gens osaient dire ceci, que Israël n'est pas un État colonial, c'est un État anticolonial parce qu'il se luttait contre l'Empire britannique. Ceci est complètement une distorsion sémantique, une distorsion de l'histoire, parce que le peuple palestinien est là, avec une petite proportion de juifs qui étaient là depuis très longtemps aussi, mais c'était la majorité de la population, et le projet sioniste qui était représenté par Jabotinsky, dont le premier conseiller secrétaire était d'ailleurs le père de Netanyahou, et tous ces gens-là qui sont dans l'extrême droite du sionisme veulent poursuivre cette lubie, cette illusion de projet colonial, et au prix de massacres et tout ça. Aujourd'hui d'ailleurs, tout récemment, un premier dirigeant des services secrets israélien a démissionné, parce que c'est une toute petite fraction dans la population d'Israël qui se révolte contre cette politique-là, mais je pense que ce mouvement va grossir et qu'on devra, un jour, Netanyahou sera amené à démissionner et être amené devant les tribunaux de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, à la fois comme chef d'État et comme personne, et avec aussi ses comparses officiers.
Merci, Monsieur Cornu. Madame Idani, est-ce que, comme le dit Bernard Cornu, à votre avis, on pourrait vraiment être optimiste à ce qu'un jour des personnes comme Netanyahou soient condamnées à la justice, à la Cour pénale internationale, et qu'ils doivent répondre en fait un jour, qu'ils répondront un jour pour tous ces crimes perpétrés contre des milliers de Palestiniens?
Un jour, il devra répondre effectivement devant de ces crimes. Mais moi, j'avoue honnêtement, je ne crois plus beaucoup aux instances internationales parce que je vois qu'elles sont complètement incapables de bouger le petit doigt vis-à-vis des grands crimes qui sont perpétrés par à la fois par les États-Unis et par Israël. Moi, je ne sépare pas les deux parce que de toute façon, cette guerre aussi, c'est la guerre des Américains. On l'a vu et ils continuent à alimenter en armes, en munitions et même c'est eux qui dirigent. Donc, en fait, tant que les États-Unis ont de la force, ces instances sont complètement paralysées par les vétos américains. On a vu même quand même l'Assemblée générale, elle est paralysée par le veto américain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il est important de mener la procédure et d'aller jusqu'au bout, parce que ça, c'est pour l'histoire et pour la documentation des crimes. Mais un jour viendra, effectivement, lorsque la Palestine sera libérée et que les États-Unis seront obligés de se retirer et puis de retirer Israël de la région. Donc ça c'est pour le futur, mais aujourd'hui il faut que la résistance continue par tous ses moyens forts en fait, et que nous continuions à soutenir la résistance palestinienne par tous nos moyens, et il faut riposter cet état fantoche et voyou d'Israël par la force. D'ailleurs, à cette occasion, je prends cette liberté de dire bravo à l'État, à la République arabe islamique d'Iran, qui a donné une belle claque aux Israéliens dans la riposte contre son agression en fait de l'ambassade iranienne. Cette riposte a été très importante pour moi. Je pense que pour beaucoup de monde, elle est très importante pour mettre le holà, mettre vraiment les lignes à ne pas dépasser, et puis menacer ce pouvoir qui est complètement au-dessus des lois, comme quoi il aura pas seulement une riposte, mais une grosse claque. Et ça ira plus loin s'il continue dans ses agressions, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Puis je voudrais aussi saluer toutes les forces de la résistance, de l'axe de la résistance, donc aussi la résistance yéménite qui assène des coups importants et à l'économie. Et puis malheureusement, elle en prend aussi de la part des Américains, des Britanniques, par les bombardements. Elle résiste aussi, et la résistance irakienne, la résistance libanaise, l'État syrien qui continue aussi à résister, à asséner des coups là où il peut. Donc aujourd'hui, que l'axe de la résistance qui est très actif aux côtés des Palestiniens et qui soutient cette résistance absolument héroïque et légendaire, je dirais, il faut le dire, pas seulement de la résistance palestinienne, des forces de la résistance, mais aussi du peuple qui est vraiment reçoit les pires coups de la part des Israéliens et les pires exactions. Mais en plus, quand on voit le chiffre, 34 000 morts, sans parler de ceux qui sont restés sous les décombres, en 7 mois, ça dépasse en fait des guerres internationales qui durent pendant des années. Donc là aussi, le peuple palestinien, il endure, il tient, il résiste, hein, et je crois qu'il est déterminé de toute manière, et toute la région est déterminée à ce que les Américains quittent cette région, à ce que cet État intrus d'Israël qui a été planté par les forces britanniques, américaines et françaises dans la région pour qu'ils continuent à pomper les richesses de cette région, ben, jusqu'au jour-là, il est sur sa fin. J'ose espérer qu'il va disparaître rapidement et que la libération de la Palestine est très proche.
Inch'Allah, on l'espère aussi. Bernard Cornu, vous, comment voyez-vous la perspective des choses? On a 2 minutes devant nous, s'il vous plaît.
Bah, c'est une conjonction de cette résistance populaire dans les pays européens et aux États-Unis contre ces politiques de complicité avec l'État israélien, agresseur, occupant, terroriste, et la conjonction des actions juridiques à la fois à la Cour internationale de justice, qui a été claire, qui a été précise pour dénoncer tous les crimes et faire un avertissement sur les mesures conservatoires exigées, qui ne sont pas encore appliquées, et par l'État israélien, et aussi par la Cour pénale internationale, dont on a dit récemment qu'elle s'apprêtait sans doute à lancer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou.
Oui. Merci infiniment. Alors, Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue, Aïssar Midani, analyste des questions internationales, était avec nous pour cette émission. Et nous avons évoqué les crimes perpétrés par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, mais surtout la révélation de la fosse commune à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Très chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'Iran et le Pakistan ont signé 8 accords visant à promouvoir la coopération dans divers domaines. En présence du président iranien Ebrahim Raisi et du premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, les responsables iraniens et leurs homologues pakistanais ont signé 8 accords. Selon ces documents, Téhéran et Islamabad renforceront leur coopération dans plusieurs domaines, dont le commerce, la science et la technologie, l'agriculture, la santé, la culture, ainsi que des affaires juridiques et judiciaires. L'Iran et le Pakistan entretiennent des liens inséparables et sont déterminés à renforcer leurs relations dans les domaines économiques, politiques, commerciaux et culturels, affirmé le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une conférence presse conjointe avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui s'est tenue le lundi 20 avril à Islamabad, capitale du Pakistan. Téhéran et Islamabad doivent utiliser leurs capacités pour servir les intérêts des deux pays, indiqué le président Raisi, mettant l'accent sur l'intention des deux parties d'améliorer leurs relations dans plusieurs domaines. Les deux pays voisins partagent la même position en matière de lutte contre le terrorisme, la sécurité, le crime organisé et les drogues illicites, a déclaré Raisi avant de souligner que les deux États cherchent à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale dans le but de défendre les droits de l'homme. Le président iranien a également fait part de la détermination des deux parties à porter la valeur de leurs échanges commerciaux à 10 milliards de dollars. Ailleurs, dans ses remarques, le président iranien a salué le soutien indéfectible du peuple pakistanais aux valeurs islamiques et au peuple opprimé de la Palestine dans la bande de Gaza. À son tour, le premier ministre pakistanais a fait part de l'inquiétude de Téhéran et d'Islamabad quant à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les deux pays ont appelé le monde entier à mettre immédiatement fin au génocide à Gaza. Téhéran dénonce les sanctions de l'Union européenne et déclare que le bloc ne fait qu'obéir aux exigences du régime criminel israélien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué l'Union européenne pour avoir renforcé les sanctions à l'encontre de l'Iran en représailles aux récentes frappes de missiles et de drones contre Israël, affirmant que le bloc ne devrait pas céder aux exigences de Washington visant à satisfaire le régime occupant de Tel Aviv. Il est regrettable de voir l'Union européenne décider rapidement d'appliquer davantage de restrictions illégales contre l'Iran, simplement parce que l'Iran a exercé son droit de légitime défense face à l'agression irresponsable d'Israël, écrit Hossein Amir Abdollahian dans un article publié le mardi 23 avril sur la plateforme de médias Socio X. Il a ajouté « L'Union européenne ne devrait pas suivre les conseils de Washington pour satisfaire le régime criminel israélien. » Le plus haut diplomate iranien a également déploré les réactions de l'Union européenne au génocide du régime israélien contre les Palestiniens, les qualifiant de presque rien de plus que des paroles creuses. Amir Abdollahian a finalement appelé l'Union européenne à appliquer des sanctions contre Israël. Ces remarques interviennent un jour après que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont convenu d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran, qui couvriraient la fourniture présumée de missiles à d'autres pays et entités à la suite de l'opération à grande échelle baptisée « Vraie promesse » contre les territoires occupés par Israël. L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles sur les territoires palestiniens occupés par Israël en représailles au bombardement israélien du complexe de son ambassade à Damas. Lundi, le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a déclaré que les membres du bloc, lors d'une réunion à Bruxelles, s'étaient mis d'accord sur le principe d'étendre les sanctions existantes contre les drones iraniens, aux missiles iraniens et à leurs éventuelles exportations vers d'autres pays. Nous sommes parvenus à un accord politique afin d'élargir et d'étendre le régime de sanctions existant et concernant les drones afin de couvrir les missiles et leur potentiel transfert vers la Russie, a déclaré Borrell, ajoutant que les interdictions seraient également étendues au-delà de la Russie, évoquant par là une éventuelle mais supposée fourniture de missiles à des groupes régionaux considérés être des alliés de l'Iran. Téhéran a nié avoir fourni des drones ou des missiles à des groupes régionaux, tout en appelant à de nombreuses reprises que les drones fournis à la Russie et qui auraient été utilisés dans sa guerre contre l'Ukraine avaient été livrés à Moscou bien avant le début de cette guerre qui remonte à février 2022. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza a réagi à la découverte d'autres corps provenant de fosses communes creusées par le régime occupant sioniste dans un hôpital de la partie sud de Gaza. Les agences de la défense civile palestinienne ont annoncé lundi 22 avril avoir déterré environ 73 autres corps de ceux qui avaient été enterrés à l'intérieur du complexe médical Nasser situé dans la ville de Khan Younes. Jusqu'à présent, les Palestiniens ont retrouvé les restes de quelques 300 personnes, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui auraient été, le mois dernier, entassés les uns sur les autres, au moment où les forces israéliennes assiégeaient l'hôpital et ses différents locaux. Ce qui se révèle chaque jour un peu plus des scènes odieuses, notamment avec ces découvertes des corps d'enfants et de femmes et ont été exécutés et enterrés dans les cours d'hôpitaux. Cela confirme bien que nous sommes face à un ennemi fasciste assoiffé de meurtre et de sang, a regretté le Hamas. Il a en outre qualifié Israël de régime dépourvu de toute valeur humaine qui n'hésite pas à commettre les crimes les plus ignobles contre des civils. Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, le Roi, a réclamé mardi 23 avril une enquête du Conseil de sécurité sur les attaques d'Israël contre les Nations Unies, dont 180 employés ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre. Philippe Lazzarini s'exprimait devant la presse au siège de l'ONU à New York à la suite du rapport d'experts indépendants emmené par l'ex-ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. « J'ai demandé aux membres du Conseil de sécurité une enquête indépendante en responsabilité pour le mépris flagrant à l'égard des locaux de l'ONU, du personnel de l'ONU et des résolutions de l'ONU dans la bande de Gaza », a martelé le patron de l'UNRWA. À la date d'aujourd'hui, 180 employés de l'UNRWA ont été tués. La semaine dernière, ils étaient 168 et plus de 160 locaux ont été endommagés ou complètement détruits, a-t-il détaillé. Ces observations interviennent un jour après l'apparition d'un rapport indépendant indiquant que le régime sioniste n'avait fourni aucune preuve de ces allégations selon lesquelles certains membres de l'UNRWA étaient liés au mouvement de résistance palestinien Hamas. Les allégations du régime sioniste ont conduit à un énorme déficit budgétaire. Un certain nombre de pays donateurs à l'agence ayant interrompu leur aide. Lazzarini a déclaré qu'il espérait que les donateurs reprendraient leur aide. Plus tôt, le roi avait déclaré qu'Israël continuait d'empêcher ses convois alimentaires d'atteindre le nord de la bande de Gaza, où les approvisionnements alimentaires sont une question de vie ou de mort. Il a également indiqué que 4 boulangeries avaient rouvert leurs portes dans le nord de Gaza grâce au soutien essentiel du Programme alimentaire mondial, PAM. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et les autorités israéliennes continuent d'empêcher les convois alimentaires de l'Euroi d'atteindre le nord. La semaine dernière, Lazzarini a averti que dans toute la bande de Gaza, une famine provoquée par l'homme resserre son emprise. La chef de file des députés insoumis, Mathilde Panon, a annoncé mardi 23 avril être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme ouverte à la suite d'un communiqué de ce groupe parlementaire publié le 7 octobre 2023, jour de l'attaque menée par le Hamas contre Israël. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale est convoquée pour un motif aussi grave, assurait l'élu dans un communiqué. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien, a-t-elle estimé. Sur X, Mme Panon a appelé tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Pour Jean-Luc Mélenchon, la convocation de Mathilde Panon est un événement sans précédent dans l'histoire de la démocratie française qui montre une volonté de protéger un génocide à Gaza. La France insoumise dénonce une instrumentalisation de la justice, assurant qu'on lui fait payer son soutien aux Palestiniens et son utilisation du terme « génocide » pour qualifier la situation à Gaza. La semaine dernière, 2 conférences de Jean-Luc Mélenchon sur la situation au Proche-Orient ont été annulées à Lille. D'abord à l'université, puis dans une salle privée. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine. Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República.